On me demande souvent, c'est quoi l'entrepreneuriat ? Bah pour ça, quoi de mieux que de demander l'avis à d'autres entrepreneurs ? Pour cette deuxième saison du podcast « Mes premières fois dans l'entrepreneuriat », vous allez découvrir sans tabou et avec authenticité les vraies coulisses des entrepreneurs qui se battent pour faire exister leur entreprise. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti ! Et avant de démarrer, les amis, si vous aimez ce podcast, je vous invite à mettre un petit 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast pour donner de la force à ce projet qui me tient vraiment à cœur. Merci d'avance, c'est parti pour l'épisode. Salut tout le monde, très heureux, comme à chaque fois, d'accueillir une nouvelle invitée, une invitée un peu particulière aujourd'hui, Julie Baconnier. Pourquoi c'est une invitée un peu particulière aujourd'hui ? Parce que Julie, elle a gagné un challenge. J'ai lancé il y a quelques mois sur les réseaux un challenge, mes premières fois dans l'entrepreneuriat. Le but, c'était quoi ? Je pense que c'est Julie qui va nous en parler. L'idée, c'était de parler d'une de ses premières fois, un petit peu atypique, bonne ou mauvaise, et c'était le post qui aurait été le plus liké, qui serait du coup susceptible de faire passer le gagnant ou la gagnante dans le podcast. Julie a gagné. Bonjour Julie, elle est consultante Notion. Dis-nous ce que ça veut dire, présente-toi. Est-ce que tu es ravie d'être ici ?
Ouh là là, beaucoup de questions. Salut à tous, salut Alex, merci pour cette invitation. Je suis consultante Notion, j'accompagne les entrepreneurs, les petites et moyennes structures à bâtir leur système d'organisation sur l'outil Notion. Donc ça va de la conception à l'implémentation dans les business et à la formation des équipes.
Ok, donc si moi j'ai pas du tout de connaissances sur Notion, tu vas m'aider au niveau de l'organisation certes, mais tu vas me former aussi sur l'outil si je comprends bien.
C'est un accompagnement à 360 sur l'outil.
Ok. Et la typologie des clients, est-ce que tu es plutôt sur des solopreneurs, des petits dirigeants d'entreprise, TPE, PME ou ça peut être des grosses structures aussi ?
Je suis surtout sur le marché du corporate, comme on appelle ça, c'est-à-dire toutes les agences digitales de 3 à 50 personnes, quoi.
Ok, ça marche. Merci à toi pour cette présentation. Comme je disais, donc, c'était suite à un challenge que tu as pu notamment participer au podcast, donc c'est plutôt cool. On a discuté un petit peu en amont, toi et moi, de différentes thématiques qu'on pourrait aborder ensemble, parce que le but du podcast, comme tu le sais, c'est de parler de 5 de tes premières fois. On commence du coup cet épisode avec une de tes premières fois, c'est ton premier client. Dis-nous-en un peu plus, comment c'est venu justement et qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là ?
Alors en fait, ce qui est drôle, c'est que j'ai eu mon premier client avant même d'être immatriculée en tant que micro-entrepreneur, parce que j'ai commencé l'entrepreneuriat en étant micro-entrepreneur. En fait, ce client, je le décroche en mode sous-traitance. Je suis à l'époque office manager, donc business manager. J'accompagne, mon activité, c'est accompagner les entrepreneurs à toute la partie gestion administrative, gestion de projet, gestion commerciale. Et je m'inscris sur Malte. Je me souviens de la première fois que je m'inscris sur Malte. Et là, j'ai une entreprise qui s'appelle 3h18, qui fait de la gestion de fonctions support dans les petites boîtes en externalisé, et qui me contacte et qui dit qu'il est intéressé. Oui, qui sont intéressés par mon profil et ils ont eu un client pour moi. Donc, tu vois, je n'ai même pas le temps de m'immatriculer que déjà je commence une collaboration. C'était une petite agence en gestion d'énergie, je crois. Ouais, voilà, c'est ça, gestion des contrats d'énergie. Et voilà, je dois donc m'immatriculer en urgence parce que je dois facturer et forcément, tu ne peux pas facturer tant que tu n'as pas de numéro de SIRET. Donc, ce qui est bien, la magie de ce statut de micro-entrepreneur, c'est que tu as juste 3 trucs à remplir, tu as un bouton à cliquer et hop, tu reçois un numéro de SIRET dans les 4 jours, quoi. Ça a été assez simple, assez facile et c'est comme ça que j'ai commencé l'entrepreneuriat.
Ok, intéressant. Comme tu dis, pour s'immatriculer, c'est assez simple. Après, même quand on est solo, solopreneur, il y a toute une gestion derrière, une maîtrise, la comptabilité. On en a parlé en plus en amont, toi et moi, avant. Donc, ce n'est pas forcément évident. Mais effectivement, pour s'immatriculer, c'est relativement simple. C'est vraiment ce client-là qui t'a lancé dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'avant, tu y avais pensé ou c'est cette opportunité qui a fait que tu t'es justement lancé aujourd'hui ?
En fait, ce n'est pas cette opportunité qui a fait que je me suis lancée. Le contexte. À l'époque, donc quand je m'immatricule, septembre 2020, je suis encore salariée. Je suis au chômage partiel puisque je suis chef de projet dans une agence événementielle et crise sanitaire oblige, le monde de l'événementiel est à l'arrêt, on me met au chômage partiel et là je me dis qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps libre, d'autant plus que j'étais payée à 100%. Donc en fait je me suis dit qu'est-ce que je peux faire pour profiter de la situation, pour en faire une opportunité, et là je me mets à faire des recherches sur ce monde de l'entrepreneuriat. Je me souviens que je suivais des nanas sur Instagram qui faisaient ça, tu sais, qui étaient freelance. Et on parle de Malte, je m'inscris sur Malte et c'est quasiment immédiat, je décroche une mission. C'est fou quand même.
C'est assez rapide, c'est pour te conforter dans l'idée qu'il fallait que tu sois à tel endroit et que tu t'inscrives notamment sur Malte. Est-ce que c'est un outil qui fonctionne? Parce que j'entends un peu tout et son contraire. J'entends des gens qui se disent « moi j'aime pas la prospection, je vais me poser sur Malte et puis j'attends que ça va venir ». Est-ce que vraiment ça fonctionne aujourd'hui?
Franchement, non, c'est pourri. Enfin, pardon. Non, c'est pas terrible. En fait, Malte, c'est un peu des profils tirés vers le bas, c'est-à-dire que ben il y a beaucoup de concurrence. Souvent, les prix affichés sont ridicules, ça correspond pas du tout à la valeur de l'entrepreneur. Bon, moi, j'y ai décroché une mission et c'est la seule.
Ok. Donc ça, c'était ton premier client. Donc c'est plutôt symbolique à chaque fois pour un entrepreneur quand il a un premier client.
Carrément.
Ensuite, comment t'as fait? Quelles sont les choses que t'aurais mis en place pour en avoir d'autres? Parce que les gens qui nous écoutent justement sont soit dans l'entrepreneuriat, soit ont envie de se lancer. C'est quoi les tips, les actions que t'as mis en place pour notamment en avoir d'autres?
J'ai actionné mon réseau. En fait, comme je l'ai dit au tout début, j'étais en sous-traitance avec une boîte qui gérait de la fonction de support. Et en fait, je me suis aperçue que c'était pas la seule. Il y a plein d'agences, en fait, qui font de la sous-traitance, qui embauchent des freelances et qui les placent dans des entreprises pour les fonctions de support, donc DRH, DAF, OM, ou même assistante administrative. Et du coup, j'en ai fait 3. Je me suis inscrite aux 3. Et donc, j'ai eu des missions comme ça. Ça a été assez simple au final parce qu'en fait, c'est des jobs qui sont ultra recherchés par les entreprises. Quand elles n'ont pas les moyens de recruter, elles font appel à de la ressource externalisée. Et en fait, pour moi, je découvrais un monde. Vraiment, l'externalisation de compétences, c'est incroyable. Et en fait, ça se fait très souvent. Et donc, voilà, j'ai pu monétiser mes compétences comme ça au fur et à mesure.
Ça, c'est cool parce que tu en as beaucoup. Bon, tout dépend après du métier. La concurrence, mais qui galère entre guillemets à trouver des clients. Moi, c'est ce que je remarque. T'en as beaucoup qui sont très forts dans un domaine, mais soit c'est très prisé au niveau de la concurrence, soit ils savent pas vendre leurs produits. Ça, c'est plutôt compliqué. Toi, c'est venu relativement vite, et tant mieux, j'ai envie de dire. Ça te permet d'investir sur d'autres choses, peut-être sur toi, sur tes projets que tu as. T'as une ambition, j'imagine, à long terme. Donc, c'est bien aussi de dire que ouais, ça peut fonctionner vite. Maintenant, c'est pas toujours la généralité, mais en tout cas, tu te lances. Ça fait quoi? Un peu plus d'un an aujourd'hui, tu es en activité, tu as déjà des clients, enfin, tu as déjà ton activité, c'est un petit peu ce que tu avais projeté avant de démarrer, donc ça montre que c'est possible.
Ouais, carrément. Je pense que moi, étant newbie, je pense que j'ai essayé de contourner le stade de la prospection justement en allant m'acoquiner avec des agences en sous-traitance. Il y a des métiers qui, ça n'existe pas, la sous-traitance, donc forcément, ils doivent sortir un petit peu... des ressources pour pouvoir aller chercher des clients. Moi, ça n'a pas été mon cas. Alors, bien sûr que si, en fait, ça a été mon cas par la suite, parce que le problème des agences en sous-traitance, c'est que tu leur files un billet quand même au passage et qu'au bout d'un moment, tu te dis, on va essayer toute seule quand même. Et j'ai quand même fait un peu de prospection. J'ai trouvé des astuces pour justement aller choper des clients. Je me souviens que c'était la nouvelle année, j'avais envoyé des cartes de vœux et j'ai décroché deux clients comme ça qui m'ont répondu « Ah, merci pour votre carte de vœux, d'ailleurs j'ai besoin de vos services ». Donc tu vois, c'est finalement des trucs assez simples, finalement des tips assez simples, des leviers à mettre en place quoi.
Ouais, des leviers à mettre en place, pas forcément évident. Du coup, là, on a parlé de ton premier client. Après, ce qui va te mettre dans le grand bain, c'est que tu es toujours en CDI, donc il faut que tu claques ton CDI. La deuxième première fois, c'est quoi? C'est justement ce moment où tu claques ton CDI. C'est la première fois où tu es maman et entrepreneur. Donc, ça cumule quand même deux mandats importants dans la vie. Je crois que tu étais donc enceinte quand tu as claqué ton CDI. Je pense que les collègues n'ont pas compris ce qui se passait. Dis-nous un peu comment ça s'est passé.
Alors, je vais donner quelques dates pour que les auditeurs comprennent. Donc, je me lance dans l'entrepreneuriat en septembre 2020. Et en juin 2021... Ça marche plutôt bien pour moi. Je décide de partir de ma boîte. J'en discute avec mon mari. Sauf que j'apprends quelques temps après, quelques jours après que je suis enceinte. Je discute avec mon mari. Je lui dis qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On y va? On y va pas? Je suis enceinte. Je veux claquer mon CDI. J'ai mon business qui fonctionne plutôt bien. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et mon mari a cette phrase magique. En juin 2021, vas-y. Tu peux pas abandonner maintenant. Vas-y. Donc, j'arrive, je me souviendrai toujours, c'est fin juin, j'arrive devant ma N+1 dans son bureau. Je lui dis, alors, je m'en vais. En fait, je veux pas lui annoncer tout de suite que je suis enceinte. C'est trop tôt. Je m'en vais. Elle me dit, OK, pas de problème. On organise mon départ parce qu'elle savait que j'avais monté ma boîte. Je lui explique que ça fonctionne plutôt bien, que je veux partir. Ça tombe bien parce que l'agence connaît les difficultés financières dues à la crise sanitaire. Ça les arrange que je parte. Et vient le départ. Donc, le temps que ça se mette en place, qu'on organise les papiers, la date de mon départ, c'est début octobre. Je me souviendrai toujours, c'est le 5 octobre. Le 5 octobre, le jour de mon départ, donc, je dis au revoir à mes collègues, je leur annonce aussi que je suis enceinte. Donc, imagine-toi leur tête quand je leur annonce que je me barre, mais en plus que je suis enceinte. Les gens me disent, mais t'es folle? Mais qu'est-ce que tu fais? Et non, je me barre, je m'en vais, mon business fonctionne bien, et certes je suis enceinte, je sais que ça va être ouf, mais j'y vais quoi. Et donc démarre une vie incroyable quoi, une vie incroyable.
Une vie incroyable, une vie dont t'as rêvé entre guillemets au niveau ouais. business, ouais. mais après la réaction des collègues, je pense qu'elle est un petit peu normale, c'est-à-dire tout le monde priorise la sécurité, t'es enceinte, faut attendre un peu, mais en réalité je pense qu'on est quand même dans un mood depuis quelques années où les gens... veulent se lancer parce qu'ils veulent faire des choses qui les animent. On n'est plus un peu à l'époque de nos grands-parents où il y avait cette sécurité à avoir, cette priorisation qui est légitime, hein, qui est compréhensible aujourd'hui. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a envie vraiment de passer à des étapes supérieures, faire ce qu'on a envie. Tu t'es posé aussi avec ton mari. Ton mari te soutient, ça c'est cool. Tu sais que tu as un business qui cartonne aussi. Peut-être que si tu n'avais pas de clients, si tu avais déjà fait de la prospection et que tu n'avais eu aucun retour, ça aurait été différent. Mais t'as quand même été au bout des choses. Donc, quelqu'un qui nous écoute et qui a un peu peur, bon, sans tomber enceinte ou sans justement aller dans un cas où il y a une obligation de faire quelque chose, qu'est-ce que tu lui conseillerais si justement elle avait des réticences sur un domaine particulier par cette peur d'être jugée, que ce soit par des collègues ou une autre personne ?
Je pense que... Comment dire les choses ? Parce que c'est vrai que quand, d'un point de vue extérieur, quand je raconte mon histoire... Les gens me disent, ouais, mais bon, on n'a pas tous les coronesses comme toi. Alors, oui, effectivement, j'ai un caractère qui fait que ben je vais foncer avant de réfléchir, effectivement. Mais tu vois, je crois que c'est ça qui fait que ça fonctionne. C'est ça qui fait que ça marche pour moi. C'est qu'en fait, je fonce dans le tas. Littéralement, je fonce dans le tas parce que je sais que je suis enceinte. Qu'il va falloir que je me sorte les doigts pour y arriver. Donc, finalement, c'est aussi un état d'esprit. Hein. Je pense qu'il y a un état d'esprit à avoir quand tu es entrepreneur, c'est d'oser prendre des risques. Là, le risque, il était quand même un petit peu mesuré parce que je savais que j'allais avoir le chômage. Et puis, de la vie des autres, c'est la vie des autres, en fait, tu vois. Je m'en foutais un peu de ce qu'allaient dire mes collègues. Je savais que ma vie entrepreneuriale n'était qu'au début, qu'au balbutiement. Je savais que j'allais cartonner parce que j'allais tout donner, tu vois. Donc, au final, je pense que si j'ai un conseil à donner à ceux qui nous écoutent ou à celles qui nous écoutent, qui, en fait, veulent avoir un enfant et se lancer à 100% dans l'entrepreneuriat, allez-y. Mesurez un petit peu le risque quand même, hein, parce que bon, je veux pas que vous alliez à la banqueroute à cause de moi. Mais voilà, j'avais tous les feux qui étaient ouverts, j'avais le soutien de mon mari, et ça, pour moi, c'était juste incroyable. Il fallait que j'y aille.
Mmh. Ah, c'est cool. Et je pense que si tu l'as fait aussi, c'est parce que peut-être que par tes expériences passées, quand tu fonces, tu te rends compte que bah, t'es meilleur peut-être dans cette position-là, dans cette situation. C'est quand justement on a un petit peu le feu aux fesses, entre guillemets, qu'en général, on arrive à faire des miracles ou des merveilles, c'est un petit peu c'était un peu ton état d'esprit et ton raisonnement
ouais,
à l'époque.
Clairement, tu l'as bien dit, Alexandre. Je crois que j'ai jamais été aussi meilleure dans mon business que quand je sentais le risque un peu brûlant quand même. je me souviens du jour où j'ai le lendemain de mon départ. Le 6 octobre, tiens, je suis partie le 5, le 6, je me retrouve dans mon salon, toute seule, je m'assois sur le canapé, je regarde autour de moi, et là, je me dis, allez, c'est parti, on y va, on va s'amuser. Et là, il se passe un truc, je suis enceinte hein, quand même, hein. Il se passe un truc, j'envoie du steak à mort, je me fais une to-do, une roadmap comme jamais j'ai fait de roadmap. Je mets en place des objectifs et je me dis, je lâche rien tant que je les ai pas atteints. Et effectivement, il se passe un truc, c'est que l'année 2022, je double mon chiffre d'affaires par rapport à 2021. Je double mon chiffre d'affaires par rapport à 2021, alors que j'ai quand même 2 mois de congé maternité. Imagine si j'avais bosser 2 mois de plus. Et en fait, parce que j'avais mis en place des actions qu'il fallait pour pouvoir tout casser. Aussi simple que ça.
Ouais, c'est-à-dire que tu prends le risque de te lancer avec la situation qu'on connaît, mais derrière, c'est pas juste de se dire « je me lance dans l'entrepreneuriat », c'est toutes les actions que tu vas mettre en place. Tu as parlé de la roadmap qui faisait 3,7 km, justement, qui te donnait un petit peu cette vision et cet objectif. C'est aussi ça, le rôle de l'entrepreneur, c'est d'avoir une vision long terme, c'est de mettre... Alors moi, je suis contre les to-do list en mode « faut faire ci, faut faire ça ». Non, là, tu étais en mode objectif. Objectif moyen terme, court terme. Donc, c'est pas juste un caprice « je veux me lancer à mon compte ». Non, c'est « je veux tout défoncer ». C'est un petit peu ce qui s'est passé. Du coup, par rapport à ton caractère, ta personnalité de fonceur, fonceuse, c'est quoi ton signe astrologique ? Rien à voir, mais j'aimerais bien savoir quand même.
Scorpion.
Scorpion, ouais. Ah, j'allais dire taureau, parce que les taureaux aiment bien foncer, mais scorpion aussi, ok. Ça explique peut-être beaucoup
ouais,
de choses.
Ouais, ouais, je suis scorpion et ça explique cette envie de finalement toujours tout défoncer, quoi. Enfin, tu vois, d'être toujours dans le risque d'être hors des sentiers battus. Et ça, j'adore.
J'apprécie, c'est comme ça qu'on avance dans l'entrepreneuriat. Ok, du coup, on avance, nous aussi, dans l'épisode, dans ton parcours, pour le retranscrire de manière assez... calibré. Donc là, c'est la troisième première fois qu'on aborde ensemble, mais du coup, c'est la première fois où tu sens que ça va marcher. Là, on n'est plus dans ton salon où tu as fait ta roadmap et puis tu définis les objectifs. Tu sens que ça va marcher. Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ?
Alors, je sens qu'il se passe un truc. Tu vois, avec le recul, je me rends pas bien compte parce que j'ai la tête dans le guidon. Tu vois, j'ai mon bébé est arrivé, je sais qu'il faut que j'y aille, que je défonce tout, parce que ben le congé maternité faisant, il a fallu que j'arrête de collaborer avec des clients, que je suspende les contrats, etc. Je reprends, et malgré tout, ça, tu sais, c'est comme la force cinétique, tu sais, quand tu as une locomotive que tu fais avancer, tu peux pas complètement l'arrêter. Tu vois, t'as toujours cette force cinétique et mon congé maternité a fait en sorte que mon business a avancé quand même. Mais peut-être même un peu trop vite parce que du coup, je me fais un peu rouler dessus quand même à l'époque. Et du coup, je me dis, bah, c'est pas grave. Ça veut dire que ça fonctionne. Donc, ça fonctionne. Finalement, je mets un peu quand même de charbon dans le four. Je continue d'avancer. J'avance. Et je me pose pas trop de questions, pour être honnête. Je me pose pas trop de questions, j'avance et on verra bien. Et avec le recul, je me dis que j'ai peut-être un peu trop forcé quand même. C'est vrai que ça a fonctionné, je suis contente, tu vois, on peut pas non plus... voilà, c'est un problème de riche, mais je me suis sentie un peu quand même dépassée, un peu... je me suis un peu fait rouler dessus, pour être honnête. Mais voilà, bah, avec le recul, je me dis que c'était trop cool parce que j'y suis arrivée, mais... Sur le coup, je me suis dit peut-être que j'aurais dû un peu profiter de mon bébé ou j'aurais du moins sacrifié mon temps. Voilà, bref.
Oui, donc Alors, c'était nouveau pour toi le côté entrepreneuse, même si tu avais déjà cette activité avant. Par contre, ce qui était nouveau pour toi, c'était le côté maman et tu étais à fond dans l'entrepreneuriat aussi, ce qu'on doit faire et être dans l'activité. Ce que tu veux dire, c'est que tu as eu cette difficulté à trouver cet équilibre entre justement la maman et l'entrepreneuse.
Ouais, et puis en même temps, j'avais pas envie de le trouver, cet équilibre. Tu sais, quand t'as un truc qui marche trop bien, t'as pas envie de l'arrêter, t'as envie de continuer. Et en même temps, ben, tu redeviens maman, donc il faut que tu t'occupes de ton... Il faut. J'aime pas trop ce il faut, mais tu t'occupes de ton bébé quand même. Donc, il faut... Ouais, il a fallu trouver quand même des ressources pour pas se cramer. Et encore, j'ai l'impression de pas y être trop arrivée quand même, hein, tu vois. Mais ouais, si. Avec le recul, je me dis que c'est passé. Tu vois, j'en ai pas... Je suis pas morte, quoi. J'y suis arrivée. Tu vois ce que je veux dire ?
Ouais, carrément. Et c'est aussi le déclic que tu avais eu, je crois que c'était quand tu avais participé à la BSB Academy d'Aline Bartoli.
Ouais, ben ouais.
Et c'est là que tu avais senti qu'il y avait un truc aussi ?
Ouais, ben en fait, Aline Bartoli, sa BSB a commencé en avril 2021. Et c'est à l'issue de la BSB que je décide d'ailleurs de me barrer. Hein. C'est en juin. Enfin, on est en plein dedans. En fait, on est en plein milieu de la BSB.
Les gens qui ne connaissent pas BSB Academy, si tu peux expliquer
rapidement. Oui, c'est un programme business qui dure 3 mois, qui est lancé chaque année par Aline Bartoli, donc The Bee Boost, qui est lancé chaque année au mois d'avril. C'est un programme d'accompagnement pendant 3 mois où en fait on t'apprend à bâtir un business en ligne de A à Z. Hein. Tu bâtis ton offre, ton audience, etc. Je Je décide de faire ce programme, je me souviendrai toujours, parce que je veux aller plus vite. Ça marche plutôt bien, mais j'ai envie d'aller plus vite, parce que je suis jamais contente, en fait. Donc, je suis jamais contente, j'ai envie de ça aller plus vite, j'ai envie de gagner plus d'argent, je fais ce programme, et en fait, c'est pas que c'est aller plus vite, c'est que c'est aller très, très vite. Et quand même, tu vois, je suis enceinte, je me dis je vais de plus en plus vite. Comment ça va se passer? Et à l'époque, je me pose plus trop de questions. Je me dis, on verra bien. Bah oui, j'ai bien vu, tiens. Voilà.
Ok, intéressant. Du coup, tu t'es lancée. Bon, t'as été maman, entrepreneur en même temps. T'as tes premiers clients. Ça roule plutôt bien, même si, bon, voilà, des réajustements, mais aujourd'hui, il n'y a aucun entrepreneur parfait. Et là, tu rencontres un premier problème, entre guillemets, avec un client. C'est un peu le fléau de tous les entrepreneurs. J'en parle souvent, moi, dans les posts, et j'en parle souvent aussi dans ma newsletter. Le premier impayé client. Donc là, il arrive. Comment tu le gères? Quel montant? Est-ce que tu as réussi à récupérer un peu? Explique-nous.
Ouais. À l'époque, je commence à pivoter sur mon activité actuelle, c'est-à-dire consultante Notion, et je propose des one-to-one, des sessions en one-to-one, des sessions de coaching avec des entrepreneurs pour les aider en fait à optimiser leur espace Notion. On est vraiment au tout début de la hype avec Notion. Et j'entame une collaboration avec une nana, une personne qui est DPO. Je ne sais pas si vous connaissez, DPO, c'est toutes les personnes qui gèrent la RGPD dans les entreprises. Elle est DPO externalisée. Et on fait une première session de coaching sur son espace Notion parce qu'elle veut faire de son espace Notion un espace de collaboration pour ses clients. Ça se passe super bien. En plus, comme je suis enceinte, je lui parle de mon futur bébé et ça se passe bien. Elle veut reprendre une session de coaching avec moi. Et là, je sais pas pourquoi, grand seigneur, je lui dis, bah écoute, je te donne mon lien Calendly, tu réserves une session et puis tu paieras plus tard. Grosse erreur. Je fais cette deuxième session de coaching avec elle le lendemain, ou le surlendemain, je me souviens plus. Plus de nouvelles. J'envoie bien sûr mon lien de paiement, plus de nouvelles, je relance. 15 jours après, je n'ai toujours pas de nouvelles. Et un mois plus tard, après l'avoir menacée quand même d'une mise en demeure, elle me répond « je te paierai pas, je suis pas satisfaite du travail ». Alors que bon, bah c'était super bien passé. Donc là, je tombe des nues, je prends une cloque là dans la tête, parce que pour moi, ça se passait super bien et en fait, je l'ai pas vu venir. J'entame une procédure de mise en demeure. Donc, procédure de mise en demeure, ça coûte de l'argent puisque tu fais appel à un... Comment t'appelles ça ? Pas un mandataire judiciaire, je me souviens plus. La personne qui gère toute la paperasse juridique, et c'est elle qui...
Je connais plus le terme exact.
Bref, tu vois, je l'avais il y a 30 secondes, mais c'est pas grave. Je pense que le stress me fait oublier, mais c'est pas grave. Donc, ça coûte 90 balles. Bon, le courrier est envoyé en recommandé. Et en fait, je reçois une réponse de l'avocate de la nana. Alors, pour préciser, la consultation fait 350 euros. Donc, je reçois un courrier d'une avocate, l'avocate de la nana, qui, en fait, m'explique très gentiment qu'on ne paiera pas, qu'elles ne paieront pas. Et là, je me dis, putain, 350 balles quand même. On n'est pas non plus à l'autre bout du monde. Hein. Et je me dis à ce moment-là, non, c'est pas moi qui me dis, c'est mon mari qui me dit, maintenant, c'est terminé, tu passes à autre chose. Je pense que le courrier d'avocat a mis fin à tout espoir de récupérer ma thune. Donc, à ce moment-là, je dis, OK, c'est mort. Et à ce moment-là, je me dis que plus jamais je me ferai niquer. Donc, en fait, maintenant, c'est paiement 100% avant le début de la collaboration. À part les accompagnements longue durée avec le marché du corporate, là, de toute façon, quand tu sais, t'es à 15 000 balles, tu peux pas demander 15 000 balles d'avance, c'est pas possible. Mais voilà, tous les one-to-one avec des solopreneurs, c'est 100% en avance et puis terminé, bonsoir. Depuis, je me fais plus niquer.
C'est dur, hein. Des fois, il faut attendre, bah, malheureusement, qu'il y ait une mésaventure comme ça pour durcir un petit peu les choses. Quand je dis c'est dur, c'est parce que des fois, tu as le feeling avec la personne, on en oublie un petit peu le côté business, tu sens que tu peux lui faire confiance. Tu parlais un peu de toi, tu parlais de ton côté maman, donc tu sens que la personne est réceptive. En général, on ne triche pas sur ces sujets-là. En général, il y a cette empathie naturelle. Et là, tu te rends compte que dès qu'on réclame de l'argent, finalement, on se met un petit peu différemment, en mode posture rebelle. Et puis, ce que j'aime dans ta démarche, c'est que tu vas quand même au bout. C'est-à-dire que tu fais une mise en demeure, tu préviens. En général, quand on va au bout des choses, moi, je le vois en tout cas pour mon expérience personnelle, mais aussi avec les entrepreneurs que j'ai déjà accompagnés, juste quand tu saisis la justice ou que tu emploies le mot justice, ça dissuade les gens et ils paient, en règle générale. Là, par contre, tu as affaire à quelqu'un qui fait appel à un avocat. Donc, c'est soit tu te lances dans une bataille et tu sais que ça va être long et que tu vas dépenser, à mon avis, beaucoup plus que 350€ pour récupérer 350€. Ce que je veux dire, c'est ton mari, je l'ai trouvé très intelligent. Quand on a la tête dans le guidon, nous, c'est difficile pour nous d'avoir une vraie décision, de se dire « est-ce que je continue, est-ce que j'arrête ?» C'est souvent l'extérieur qui agit et qui est bienveillant à ce niveau-là. Et se dire « ok, on s'assoit sur 350€, mais parce qu'on sait que ça va être une bataille sans fin, c'est énergivore. » Donc, je pense que c'est une bonne réponse qu'il a apportée. Et au final, tu n'y as pas été, tu l'as écouté, parce que tu savais au fond de toi que ce n'était pas forcément là où il fallait aller en termes d'énergie pour ton entreprise.
Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, mon mari me met un stop. Moi, j'ai envie d'aller plus loin, parce qu'à partir du moment où il y a un refus de la mise en demeure, c'est le tribunal. En fait, je pense que c'est mon ego qui parle à ce moment-là. Je me dis, putain, la bitch, elle fait appel à une avocate. Bah, tu sais quoi, moi aussi, je vais faire pareil. Et en fait, à l'époque, enfin, c'est pas à l'époque, c'est j'ai toujours une copine avocate. Donc, je la sollicite. Je dis, qu'est-ce que t'en penses? Elle me dit, à ton avis, qu'est-ce que j'en pense? No way, vas-y pas. Ça va te coûter plus cher que 350 balles. N'y va pas. En plus, t'es même pas sûr de gagner. Donc, c'est ça qui met fin finalement à mon délire, c'est qu'elle me dit « ça va te coûter plus cher ». Et à partir du moment où ça coûte plus cher que la mise de départ, on n'y va pas. Ouais, je suis sur le moment, je suis un peu abasourdie. Je suis sonnée qu'elle fasse appel à une avocate. Et là, je me dis « c'est pas possible, elle doit avoir une copine avocate pour perdre, elle peut pas perdre de la thune sur ça, c'est pas possible ». À mon avis, elle avait une copine avocate. Non, on refait pas l'histoire, on s'en fiche au final, mais oui, sur le coup, j'ai un peu mal au derche, mais bon, c'est comme ça.
À ce moment-là, ça te dégoûte du business ou de l'humain ?
De l'humain, pas du business. J'ai confiance en ce que je fais, j'ai d'excellents retours. C'est juste que je suis tombée face à une bitch, quoi, tout simplement. Voilà. C'est la vie.
Et le conseil ou les conseils que tu donnerais à des gens qui veulent faire confiance, entre guillemets, parce que j'en entends beaucoup, hein, qui disent non, mais c'est bon, il me paiera plus tard, on verra bien. Et au final, c'est comme ça qu'on se fait avoir. C'est quoi que tu conseillerais ?
Sécuriser vos collaborations quand il s'agit du très court terme, demander le paiement en avance. Quand il s'agit de la collaboration de longue durée, proposer une forme de loyer, en fait, tous les mois, ça fait tant. Et vous signez un contrat. Vous ne commencez pas la collaboration tant que le contrat n'est pas signé. Le contrat protège, quand même. Le contrat protège, et ça, je l'ai su un peu... je savais que le contrat protégeait, mais si tu veux, moi, j'avais tellement conscience que pour moi, ça suffit. Enfin, je m'en foutais un petit peu. Erreur. Voilà.
Ouais, vous avez entendu, Julie. Se protéger, hyper important. Ok, on poursuit. Du coup, tu as cette mésaventure, tu continues quand même, tu as des missions... Ça va pour toi. Et puis là, tu vas être confronté à quelque chose auquel tu n'avais jamais été confronté avant. Parce que tu es un peu, tu l'as dit toi-même, tu fonces, tu es perfectionniste, tu aimes bien faire les choses. Et puis là, tu as ton premier retour négatif sur une de tes formations, donc de la part d'un client, de ce que j'ai cru comprendre. Comment tu l'as vécu ? Pourquoi c'est arrivé ? Est-ce que c'était exceptionnel ? Dis-nous-en un peu plus.
Alors, le premier retour négatif, c'était sur ma formation. Je lance une formation en juillet 2021 qui s'appelle Organisation Booster, qui est d'ailleurs toujours d'actualité, qui en est à sa troisième version. J'ai une nana qui prend ma formation, elle est ultra newbie, elle se lance et en fait, je pense que le niveau de la formation est quand même assez costaud. Pour préciser l'audience à l'auditoire, c'est qu'en fait, ma formation, c'est je t'aide à bâtir un système de A à Z sur Notion. Donc vraiment de A à Z, c'est-à-dire qu'en fait, on bâtit ton back office. Et je pense qu'elle était trop costaud pour elle. Difficulté de compréhension des leçons, elle me posait beaucoup de questions et effectivement, je le sentais venir, le témoignage de fin de formation, il est terrible. Les vidéos sont trop compliquées à comprendre, tu parles trop vite, j'ai eu beaucoup de mal à implémenter les exercices, Alors que bon, j'étais constamment en présence avec elle pour répondre à ses questions. Je, sur le coup, je comprends pas. Je me dis, what? Comment ça? Et en fait, je me dis que peut-être l'ultra newbie n'était pas forcément, c'est pas forcément le public cible de la formation. Il faut vraiment avoir envie de bâtir ce système pour aller vraiment tout casser avec son business. Donc ça veut dire implémenter des choses un peu stratégiques, comme de la gestion financière, comme une gestion de clients, une gestion commerciale. Enfin voilà, c'est des trucs quand même assez costauds. Et bon, c'est pas du léger quoi. C'est pas du template que tu vas télécharger sur Google. Donc voilà, peut-être une différence entre les attentes et la réalité de la formation.
Et comment tu le vis au niveau de l'intérieur, de l'émotion? Ça te remet en cause toi? Tu dis qu'il faut que tu fasses attention? Est-ce que tu es piqué dans ton orgueil? Comment tu le perçois?
Ouais, bah faut savoir qu'avec mon caractère spécial, on va dire, je ne supporte pas, j'ai beaucoup de mal avec la critique. Parce que je suis perfectionniste et donc je considère que ce que je fais, ça doit être parfait. Donc quand quelqu'un te dit que ce que tu fais, c'est de la merde, et ben franchement, tu prends une queue-clade sévère. Et du coup, tu t'en viens à te remettre en question, tu t'en viens à remettre ton business en question, tu en reviens à remettre le monde en question, hein, clairement. Alors qu'au final, c'est une personne parmi une cinquantaine d'apprenantes à ce moment-là. Et sous proportion gardée, tu prends du recul, tu dis ouais, ben je pense qu'en fait c'était pas pour elle. Voilà, et t'avances et voilà, c'est tout ce que j'arrive à faire à ce moment-là, c'est avaler la couleuvre et avancer.
C'est-à-dire que t'acceptes quand même que ça peut ne pas plaire à tout le monde et qu'il peut y avoir des critiques, bien qu'elles soient constructives ou pas, mais qu'en tout cas ça ne puisse pas convenir à tout le monde sans que ça te remette en question.
Bah si, enfin, en fait, à l'époque, je me remets quand même en question. Je me dis que peut-être mon programme est mal expliqué ou peut-être que les leçons, ça va trop vite. Et en fait, je m'aperçois que le lecteur de la Vimeo, tu peux ralentir le son, tu peux être en 0,75 ou en 0,5. Donc, si je parle trop vite, elle avait la possibilité de ralentir. Elle avait accès à moi, donc je lui ai apporté toute l'assistance nécessaire. Donc tu vois, quand tu fais le point sur ce qui s'est passé, tu te dis putain, j'ai tout donné pour l'aider. À un moment donné, si elle comprend rien, j'ai pas rien quoi. À un moment, tu peux pas non plus sauver la personne, tu vois. Si elle veut pas faire d'efforts, ben c'est, je peux rien faire.
Tu peux pas te plier en quatre non plus pour tout le monde et aller au-delà de ce que tu es capable de faire. Je pense qu'on peut le faire dans certains cas. Là, en l'occurrence, tu as quand même une formation explicative. Si la personne a des difficultés pour justement comprendre certaines choses, tu peux pas aller au-delà. Tu peux de temps en temps faire des points, échanger, répondre à des questions. Comme tu disais que c'était une personne qui parlait beaucoup, enfin qui demandait beaucoup de choses. Mais si tu le fais pour tous les clients, tu t'en sors pas et t'avances pas pour ton business. Donc à un moment donné, on doit accepter un petit peu ce pourcentage de personnes qui sont pas forcément satisfaites. Enfin, pour moi, la satisfaction 100%, ça existe
non,
pas.
Non, je suis bien d'accord avec toi. Et en plus, on n'était pas sur du one-to-one. C'est une formation en e-learning. Là, j'avais quand même pris les devants. Je l'avais accompagnée quasiment one-to-one, du semi-personnalisé, parce que je sentais qu'elle était pas à l'aise sur les leçons, que c'était un peu compliqué pour elle. Sauf qu'à un moment donné, bah, c'est soit t'acceptes le format e-learning et bon, bah, tu t'essayes de faire en sorte de pouvoir te débrouiller, ou alors tu prends un one-to-one avec moi, sauf que ça coûte 3 fois plus cher. Donc, tu vois, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut, quoi.
Carrément. Avec tout ce qu'on vient de voir sur toi, on est passé par ton premier client, la première fois que tu étais maman et entrepreneuse, première fois que tu as senti que ton business allait marcher, ton premier impayé client. Et là, on vient de le voir, ton premier client qui n'est pas forcément satisfait, entre guillemets. Qu'est-ce que tu conseillerais à la Julie d'avant, il y a quelques années, il y a 2-3 ans, 2020, 2021, par rapport à tout ce que tu as vécu aujourd'hui, tu lui conseillerais des choses pour s'améliorer, toi qui es perfectionniste justement, maintenant que tu sais ce qui va se passer dans les 3 années à venir, qu'est-ce que tu lui dirais?
Je dirais à la Julie de 2021, je dirais à la Julie de 2021 de garder son cap, de garder, d'être sereine. Je pense que, tu vois, 2022, je me suis fait rouler dessus. Enfin, je lui dirais anticipe au maximum. Tu vois, je te l'ai dit, mon caractère, c'est de foncer et de réfléchir après. Je pense que mon gros défaut, là, en tant qu'entrepreneur, c'est l'anticipation. Et avec le recul, je pense que j'aurais dû avoir plus d'anticipation sur les conséquences d'un business qui fonctionne bien. Tu vois, c'est un peu un problème de riche quand même, je dois admettre, mais Je pense que j'ai manqué d'anticipation et que du coup j'aurais pu éviter de me faire rouler dessus, notamment en 2022. J'aurais pu éviter d'être presque dans ce burn-out. D'ailleurs, c'est l'objet du post pour ton concours, c'est qu'en fait, à l'issue de l'arrivée de mon enfant, je me fais rouler dessus et en fait, je fais presque un burn-out. On peut pas dire que j'ai fait un burn-out parce que j'ai quand même réussi à me lever, mais ouais, ça a été un épuisement général. Et je me dis, avec le recul, peut-être que j'aurais dû ralentir un peu plus, de gagner en sérénité, en anticipation, pour pouvoir ralentir sans avoir à me faire rouler dessus, tout simplement.
Ce problème de risque que tu décris, en fait, c'est quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu as une activité, bon, tu espères que ça va marcher, sinon on ne se lance pas. Mais ce dont tu parles de travail d'anticipation, c'est que qu'est-ce que je fais si vraiment ça décolle ? Qu'est-ce que je ferais si vraiment ça fonctionne ? Et là, quand tu dis que tu t'es roulé dessus, ce n'est pas dans le sens... Tu n'avais pas assez de travail, tu devais trouver des axes d'amélioration pour avoir des clients. Tu as tellement de travail que justement, tu as du mal entre guillemets à gérer. Donc, c'est ce travail-là dont tu parles au niveau de l'anticipation ?
Oui. En fait, à l'époque, je veux faire beaucoup. Tu vois, je veux aller vite, je veux aller fort, je veux gagner beaucoup d'argent. Enfin, tu vois, mon mindset, c'est de tout casser. Sauf que tu ne peux pas vouloir tout casser alors que tu deviens maman, en fait. Tu vois, il y a un problème de compatibilité. Je ne sais pas si j'ai envie de dire compatibilité. Si, allez, j'ose, compatibilité. À un moment, tu es en congé maternité, tu as ton bébé qui a besoin de toi, mais toi, tu n'as qu'une envie, c'est de tout casser. Peut-être que si j'avais anticipé avant d'accoucher pour pouvoir essayer de mettre la gomme avant et pouvoir profiter d'un congé maternité sereinement, j'aurais peut-être vécu les choses différemment. Est-ce que j'aurais eu moins de regrets, je me sentirais moins coupable. Or là, en fait, tu vois, j'ai recommencé à bosser. J'ai choisi de faire le congé maternité le plus court, donc 8 semaines, 2 semaines avant d'accoucher, 6 semaines après. Donc mon petit ayant 6 semaines, j'ai repris comme si il ne s'était rien passé. Et pour moi, c'était presque une erreur. J'aurais dû anticiper un peu mieux.
Merci d'être transparente, en tout cas, sur ce sujet, parce que ce n'est pas évident. C'est pas évident de reconnaître certaines choses. Après, personne n'est là pour juger, mais je pense que personne n'est parfait, donc on en fait tous des erreurs. Donc, en tout cas, merci à toi d'avoir dit les choses avec transparence et de t'être exprimé aussi bien à ce micro grâce à ce concours. Mais de toute façon, je serais venu te chercher quoi qu'il arrive pour qu'on partage ensemble ton expérience.
Merci, ça me fait tellement plaisir. J'avais quand même envie de partager, de participer à ton concours parce que, en fait, j'avais vraiment envie de partager mon histoire à travers ce poste-là. Et d'ailleurs, je te l'ai dit, même si je gagne pas, c'est pas grave. Ce que j'aurais gagné, c'est de la transparence sur comment ça se vit un entrepreneuriat tout en redevenant maman. C'est pas évident. C'est franchement pas évident. C'est chaud. Mais ça n'empêche pas de le faire. Si je dois rassurer les mom-to-be qui sont entrepreneurs, c'est possible. Je vous assure que c'est possible. Juste faites preuve d'anticipation et s'il vous plaît, de grâce, ne culpabilisez pas. C'est pas grave, votre business, il peut prendre un petit temps un petit temps de pause. On n'est pas en retard. L'entrepreneuriat, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Je pense que vous connaissez l'adage. Prenez le temps avec votre bébé. C'est des temps que c'est des précieuses heures que vous n'aurez plus après. Mon petit, il va avoir 2 ans. C'est passé tellement vite. J'ai l'impression d'avoir eu ce passage de 2 ans en un claquement de doigts. Donc profitez de votre enfant.
C'est ultra précieux. Et je me souviens quand on discutait justement, tiens, je vais participer à ton podcast. C'était assez drôle les échanges qu'on avait. Effectivement, tu disais l'important c'est de participer, mais je me souviens quand même que tu disais t'inquiète, je prépare un truc, je vais tout péter. Donc ça ressort bien un peu le profil que tu es aujourd'hui et c'est assez drôle. Et je me disais, bon, je pense que Julie, de toute façon, elle va se démarquer. Et mon avis, elle va être dans les 3 premières et ça n'a pas loupé. Donc c'est plutôt cool. Merci encore à toi, Julie, c'était très cool de t'entendre.
Merci pour ton invitation. Je suis ravie d'avoir pu échanger avec toi. C'était trop chouette.
Yes, plaisir partagé. Et moi, je vous dis à très vite pour justement une nouvelle histoire, un nouveau parcours entrepreneurial. À très vite. Ciao. Salut. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à mettre un petit 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast pour donner de la force à ce projet qui me tient vraiment à cœur.